Bonjour, c'est Aurélie Herbemont, ravie de vous présenter ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un épisode consacré à François Ruffin, le député insoumis de la Somme qui pense à la présidentielle. Voici ce qu'il a répondu aux médias en ligne Combini en février 2023.
J'y pense pas le matin en me rasant ni en courant, mais je sais qu'il y a un devoir aujourd'hui de représenter les plus invisibles de la nation. Ils ont besoin d'être portés par une voix d'espérance qui soit à gauche et qui ne soit pas dans la déprime, dans l'extrême droite et ainsi de suite. Donc si un jour je dois incarner ça, je le ferai.
Alors c'est la première fois qu'il est allé aussi loin sur la question de ses ambitions. Pour mieux connaître François Ruffin, je suis avec Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Bonjour Marie-Bénédicte.
Bonjour.
Tu suis essentiellement la gauche ici pour la rédaction. Et je suis aussi avec Olivier Perroux, journaliste politique à l'Express. Tu as signé un papier au titre très prometteur, François Ruffin, comment il compte avoir la peau de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Olivier, merci
Bonjour.
D'être là. Alors d'abord, c'est quoi le parcours de François Ruffin avant d'arriver à l'Assemblée en 2017, Marie-Bénédicte?
François Ruffin, c'est un provincial issu de la classe moyenne plutôt aisée. Hein. Son père est cadre, je crois, sa mère femme au foyer. Il est scolarisé dans un établissement privé à Amiens, le lycée de la Providence, comme un certain Emmanuel Macron. Et puis, il veut devenir journaliste. Il rentre au centre de formation des journalistes à Paris. Et puis là, il ne s'y trouve pas vraiment à sa place, en fait. Il a l'impression qu'on apprend à reproduire quelque chose et il écrira d'ailleurs un bouquin à sa sortie du CFJ.
Du journalisme.
Absolument, pour critiquer l'enseignement qu'il a reçu. Et puis, il mène un journalisme plutôt engagé. Hein. D'ailleurs, il va créer son propre hebdo à Amiens parce qu'il n'est pas satisfait de la presse locale et commencer à tourner des documentaires. Puis il y a un mouvement de bascule au moment de Nuit debout, sans doute en 2006, où là, sans doute qu'il a plus envie de s'engager politiquement.
Olivier, en tout cas, on peut dire qu'il a été journaliste et il continue en fait à avoir cette double casquette un peu de député-reporter.
Alors c'est l'une de ses marques de fabrique, il le revendique être député-reporter, on le voit au fil enfin il fait mille et une vidéos ou interviews dans lesquelles il se filme sur le terrain, donc on a un peu ça a déjà existé dans le passé, hein, notamment sous la Troisième République, on avait ces députés qui étaient sur le terrain et qui écrivaient ensuite dans les journaux ce qu'ils avaient vu et ce qu'on leur disait, et il a un peu cette culture-là, il a repris cette culture-là. Et en même temps, aujourd'hui, il commence, il le dit lui-même, il dit c'est pas suffisant, si je veux aller plus loin, c'est pas suffisant, il faut que je sois autre chose qu'un simple député reporter. Donc il a commencé à mettre des vestes, plutôt entre guillemets, enfin je vais pas le dire comme ça, mais voilà, s'habiller plutôt comme un député traditionnel.
Il a toujours été de gauche, François Ruffin, mais pas toujours de gauche radicale, Marie-Bénédicte.
Non, d'ailleurs, il revendique le parcours de la gauche jusqu'en 1983, hein, donc le mitterrandisme, jusqu'au moment
au tournant de la rigueur, quoi.
Voilà, jusqu'au tournant de la rigueur, quand Jospin, qui était alors le premier secrétaire du PS, annonce une parenthèse libérale et lui dit « la parenthèse, elle s'est jamais refermée ». Et c'est à ce moment-là que lui, là, il se radicalise peut-être un petit peu plus. Il est plus en accord avec la gauche sociale, la gauche social-démocrate de l'époque, en tout cas.
Même s'il y a quelques mois, fin 2022, il a revendiqué à nouveau d'être social-démocrate.
Alors, il va même, pour reprendre l'expression de 1983, il dit « je suis là pour refermer cette parenthèse ». Donc, c'est qu'il va vraiment très loin dans sa démarche. Quand il dit dans l'Obs « je suis social-démocrate », il dit vraiment « je suis social et démocrate ». Parce qu'aujourd'hui, la notion de social-démocratie en France, elle est assez galvaudée, parce que ce n'est pas la vraie social-démocratie, c'est-à-dire la jonction entre les syndicats et les partis politiques de gauche. C'est plutôt une forme de social-libéralisme. Et François Ruffin, justement, s'oppose à ça. Lui, il est plutôt contre le libéralisme, et il veut revenir, justement, à ses fondamentaux de gauche, de la première gauche, finalement, la gauche sociale, ouvrière. Et donc, il est quand il dit « je suis là pour fermer la parenthèse ouverte en 83 », c'est qu'il s'avance vraiment vers peut-être candidature.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un écorché vif, François Ruffin ?
Ouais, c'est un révolté, un indigné. Parfois, il parle de frustration qu'il a souvent éprouvée. Ça s'entend même quand il parle. Enfin, les mots se bousculent. Il a une diction parfois un peu
chaotique. Il y a un côté fébrile quand il s'exprime, qu'il est toujours sur le fil.
C'est ça. On sent qu'il est. Il fait toujours référence à son vécu personnel, à ses enfants. On sent les émotions à fleur de peau et qui parfois, effectivement, l'empêche d'avoir un discours très clair.
Olivier.
Dans mon enquête, j'ai remarqué quelque chose d'assez incroyable, c'est que j'ai l'impression qu'il y a parfois deux François Ruffin. C'est vrai que je l'ai rencontré deux fois pendant l'enquête. La première fois de manière informelle, en off, comme on dit, où j'avais fermé le cahier et le crayon à côté. Et il m'expliquait assez librement quelle était sa stratégie et comment il voulait devenir candidat et quels étaient tous ses obstacles. Mais ça, on ne pouvait pas l'écrire, ce qu'il disait. Et puis, je l'ai rencontré une autre fois, là, une vraie interview de manière très formelle. Et c'était plus le même François Ruffin. Il était beaucoup plus précautionneux, beaucoup plus hésitant, moins direct sur sa volonté d'être candidat. Et il me fait vraiment penser parfois à un coureur du Tour de France, François Ruffin. Surtout les Français, quand ils sont dans un col. C'est vrai que c'est toujours les premiers attaqués. Mais au bout d'un moment, ça ralentit. On ne sait pas pourquoi. Il a plus de jus et il est hésitant. Il est torturé par des vents contraires et on ne sait jamais lesquels. Ça peut être sa propre famille politique. Ça peut être à la suite d'un reportage qu'il fait, de gens qu'il rencontre, parce qu'il voit que le Front National est si haut que ça lui sera impossible. Et puis le lendemain, le lendemain matin, il va se réveiller, il va prendre son petit déj avec la volonté d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc il y a un petit peu ce côté cyclothymique, oui.
Alors tu dis qu'il y a deux François Ruffin. En tout cas, on pourrait presque dire qu'il y a eu un François Ruffin de son premier mandat de député et un deuxième François Ruffin avec son nouveau mandat de député. Parce que pendant son premier mandat, quand il est élu en 2017, il y a un côté adepte des coups d'éclat, comme ce jour de décembre 2017 où il va monter à la tribune de l'Assemblée avec un maillot de foot vert, ce qui va fortement déplaire au président de séance.
Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine.
Monsieur Ruffin, je vous rappelle que le respect qui est dû à nos débats et à notre Assemblée implique une tenue correcte. Et je vous demanderai à l'avenir de vous tenir éloigné de ces extravagances vestimentaires qui ne rendent pas hommage au travail que nous devons mener dans cet hémicycle.
Tenue correcte exigée. Je me souviens aussi d'une autre fois où une présidente de séance va lui dire de rentrer sa chemise dans son pantalon. Il y a aussi eu le moment où François Ruffin brandit un carnet de chèques dans l'hémicycle, où cite Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais on a l'impression, Marie-Bénédicte, que c'est fini cette époque. Lui-même revendique sur son blog de s'être assagi.
Dans sa préparation à un parcours ultérieur, il a compris qu'il ne pouvait pas être ce député complètement foutraque, effectivement, avec la chemise sortie du pantalon, et qui avait quand même une forme de respectabilité, sans doute qu'il n'aimerait pas le mot, mais pour incarner quelque chose d'autre, et pour que sa parole porte, et qu'il puisse élargir son message.
En tout cas, il analyse ça sur son blog, puisqu'il explique qu'à sa naissance, un bébé pleure et crie, c'est signe de vitalité. Ce moment, nous, les insoumis, nous l'avons franchi. À 17 députés avec bruit et humeur, nous avons existé. Depuis, des choses se sont modifiées. Alors c'est vrai que ce qui a changé, les insoumis sont aujourd'hui 75 à l'Assemblée. Puis François Ruffin évoque aussi des Français fatigués par le Covid, l'inflation, des Français que lui, il aimerait bien rassurer. Olivier, il est plus en phase, François Ruffin, avec le bruit et la fureur, la conflictualité partout, tout le temps, qu'avait théorisé Jean-Luc Mélenchon ?
Il est plus en phase pour une raison assez simple, c'est que je crois que c'est le seul insoumis avec, je vais mettre Clémentine Autain et Alexis Corbière, finalement ceux qui ont un peu rompu avec Jean-Luc Mélenchon ces derniers temps, c'est l'un des seuls insoumis à être dans une stratégie de conquête du pouvoir. Et il a compris que la seule masse insoumise, ça ne représentait que 26%. À savoir la NUPES, donc on va dire ça, aujourd'hui ça ne représentait que 26% dans l'électorat. C'est peu, et ça ne fait pas gagner des élections, et c'est pas historique pour la gauche. Donc il a vu un peu ce plafond de verre au-dessus de la tête des insoumis, donc il s'est dit, mais comment on fait pour le briser ? Ah, il va falloir que je revienne vers une gauche finalement qui a su gagner des élections, alors c'est pas forcément celle de François Hollande, mais en tout cas ça tend vers ce qu'il dit, quand je suis social-démocrate, c'est un appel du pied aux socialistes. Donc il s'assagit parce qu'il a compris que le style insoumis,
le ton,
cette radicalité qui est revendiquée aussi chez François Ruffin, ne suffit pas. Il faut être justement plus sérieux, plus travailleur et plus dans cette envie de gagner des élections et de de conquérir des masses plus grandes que les seules masses insoumises. Les insoumis adorent citer Jaurès qui disait « il faut faire la révolution pour pouvoir réformer ». Justement, lui, il est dans l'étape d'après, parce que la citation exacte de Jaurès était de dire « oui, mais la réforme est révolutionnaire, donc il faut forcément réformer, et après, c'est comme ça qu'on fera la révolution ». Et il est vraiment, justement, dans un contre-pied du discours insoumis.
D'ailleurs, on l'a vu dans le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Il n'a pas du tout participé à cette espèce de maelstrom, cette hystérisation du
alors
débat.
Alors que c'était le porte-parole du texte,
oui, absolument. Et c'est pas lui qui... Tous les excès qu'on entend à ce moment-là, ils viennent pas de lui.
Non,
il n'était pas d'accord avec ça, finalement.
Avec la stratégie, avec l'obstruction, tous les amendements, etc. On va en venir à ses relations avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques semaines, le leader insoumis a fait ce tweet « François est prêt ». Olivier, est-ce que c'était un adoubement ou un baiser de la mort ?
Le maire de Marseille, Benoît Payan, me confiait il y a 6 mois de ça que Jean-Luc Mélenchon, c'était le pire des socialistes. Parce qu'on sait que Jean-Luc Mélenchon... Et pourquoi c'était le pire des socialistes ? Parce que c'était un mitterrandiste. Mitterrand n'adorait rien tant que justement se trouver des successeurs. Il disait à Jox, c'est à toi. Il disait à Jospin, il faut que tu y ailles. Il disait à Jacques Lang, il en a dit à tellement. Et finalement, Mitterrand...
Divisé pour mieux régner.
Exactement. Et Jean-Luc Mélenchon, reprend cette stratégie. Il ne faut pas se tromper justement dans ce tweet. Beaucoup de gens y ont vu un adoubement, ce n'en était pas un. Il y a chez Jean-Luc Mélenchon la volonté de tromper François Ruffin, parce que à 4 ans de l'élection présidentielle, c'est très tôt pour
c'est un cadeau empoisonné presque de dire ça.
Exactement, donc il le jette dans le grand bain pour voir s'il nage et pour voir comment il réagit justement à la pression médiatique autour de cette potentielle candidature.
Marie-Bénédicte.
Oui, effectivement, c'est aussi un peu détourner finalement l'attention médiatique de lui, Jean-Luc Mélenchon, qui dit souvent qu'il subit toutes les attaques. Et donc, Ruffin, il est populaire en ce moment, vous l'aimez bien, allez-y, amusez-vous avec lui. Et c'est pas lui rendre service, effectivement, enfin, à moins que ça soit pour l'éprouver, mais c'est très ambigu chez Jean-Luc Mélenchon, quand même.
D'ailleurs, dans ton papier, il y a une phrase de François Ruffin à des amis qui dit « ce truc, je m'en serais bien passé ».
Il le dit. Alors, d'ailleurs, pour l'anecdote, il le dit à des amis qui étaient, c'est de ses nouveaux amis qu'il va voir, qui étaient des amis de Jean-Luc Mélenchon avant qu'il entre au gouvernement Jospin, donc c'est avec qui Jean-Luc Mélenchon a rompu. Donc c'est aussi intéressant de noter qu'aujourd'hui, François Ruffin s'est rapproché de gens qui connaissent historiquement bien Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a peut-être une volonté aussi de jouer contre lui, de tromper, de trouver la faille. Et sur ce tweet-là, il essaye non seulement de jeter François Ruffin dans le grand bain, et puis je pense qu'il essaye de diviser aussi
les successeurs potentiels.
Je pense qu'en faisant ce tweet, Jean-Luc Mélenchon, c'est même pas je pense, et j'en suis convaincu pour en avoir discuté avec plusieurs, qu'il espérait que Clémentine Autain, Alexis Corbière disent...
Bah non, c'est moi.
Et pourquoi pas moi. Et du coup que les 3 ou 4 là se divisent entre eux et que Jean-Luc Mélenchon in fine arrive et dise attendez, je vais calmer le jeu, ce sera moi et on va arrêter la bataille des successeurs.
Quelles sont leurs relations à tous les deux entre Mélenchon et Ruffin ? Est-ce qu'il y a un peu de je t'aime moi non plus, de l'admiration et en même temps de l'exaspération ?
Oui, alors Ruffin dit que c'est Mélenchon qui a été le premier homme politique à lui apprendre quelque chose, qu'il avait pris part à la conférence de presse de lancement du parti de gauche à l'époque, ouais. et que là il a eu une sorte de révélation, quoi. Voilà, exactement. Il surjoue beaucoup une forme d'amitié, de respect intellectuel. Je me souviens être allée à un tout petit meeting à Abbeville dans la Somme il y a 3 ans de ça, où ils avaient joué un peu le maître et l'élève, disant mais oui, on se voit tous les mardis en tête à tête, on sauve des bouquins, enfin etc. On parle de philosophie. Voilà, il joue ce côté-là, cette espèce de connivence intellectuelle. Mais je pense que François Ruffin est quand même assez prudent par rapport à ce que Mélenchon peut éprouver pour lui.
Une relation de méfiance, notamment de la part des deux vis-à-vis de chacun. C'est-à-dire que il y a une scène qui je raconte dans l'enquête, c'est que sous le premier quinquennat, François Ruffin organise pour l'anniversaire d'Emmanuel Macron la fête à Macron. Donc des grandes manifestations, une grande manifestation en France autour de la place de la Bastille. Et le mot d'ordre que les syndicats acceptent, que les quelques partis politiques qui sont invités acceptent, c'est pas de drapeau. C'est vraiment quelque chose de apolitique.
C'est très œcuménique et voilà.
Exactement. Et Jean-Luc Mélenchon dit oui. Donc François Ruffin loue un petit bus pour justement
pour haranguer la foule. Voilà.
Et puis Jean-Luc Mélenchon arrive avec des centaines et des centaines de drapeaux dans la LFI dans la manifestation, un bus à impérial duquel il fait un grand discours. Et François Ruffin
se fait voler son moment
qui est un moment Mélenchon à la rage, à les larmes aux yeux. Et Jean-Luc Mélenchon va le voir. Il y a une photo qui est incroyable, qui existe, où Jean-Luc Mélenchon enlace François Ruffin, qui a la mâchoire serrée. Il s'est même beaucoup de journalistes étaient sur place et ont vu que lui et Adrien Quatennens se sont assez sérieusement disputés. Donc il y a ce moment-là, et il y a une autre anecdote que je trouve mais révélatrice et qui est formidable, c'est les lectures du moment de François Ruffin. Et en ce moment, François Ruffin, il est en train de lire un livre qui est une biographie d'un révolutionnaire qui s'appelle Camille Desmoulins. Et Camille Desmoulins, c'est le premier à avoir critiqué en 1792 Robespierre et la Terreur. Et il faut quand même se souvenir que Robespierre est un des personnages que Jean-Luc Mélenchon adore. C'est son révolutionnaire préféré. Avec Saint-Just. Et qui a condamné à mort Camille Desmoulins, c'est justement Robespierre et Saint-Just. Et en ce moment, François Ruffin adore dire qu'il a lu ce livre, il le répète.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas dans la relation Mélenchon-Ruffin, puisque François Ruffin n'est pas membre de la nouvelle direction de la France Insoumise. Il avait d'ailleurs évoqué sa tristesse sur LCI.
Je suis triste pour eux plus que pour moi, parce que je pense que j'avais quelque chose à apporter. Ça fait 23 ans que je suis impliqué dans un coin, la Picardie, où on voit le Rassemblement National monter, où j'ai un ancrage avec la France qui se lève tôt, donc je pense que j'avais ça à apporter. Voilà, je suis un peu triste qu'on ait plutôt qu'un élargissement, qu'on ait un rétrécissement.
On peut dire que François Ruffin a un positionnement un peu différent du cœur de la France insoumise. Lui, il revendique de parler à la France des sous-préfectures, la France rurale, ce qui est quand même pas le cœur de cible de Jean-Luc Mélenchon.
D'ailleurs, il est élu d'un département où le FN d'abord, puis le RN se sont implantés assez tôt, hein, et qui a gagné la classe ouvrière, ce qui la constitue aujourd'hui, c'est-à-dire les caissières de supermarché, toutes ces professions du lien, enfin tous ces gens qui ont été en première ligne finalement pendant le Covid. Et lui, il pense qu'effectivement, la France insoumise délaisse trop ces gens-là. Et lui, finalement, c'est toujours à ces gens-là qu'il a été parlé lors de ses reportages. Donc oui, son positionnement est un peu différent.
Olivier ?
Il a fait campagne sans la photo de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, pendant la législative, les affiches de la NUP, c'était
Mélenchon Premier ministre
avec le candidat et puis Mélenchon derrière, en arrière-plan. Et Fabien Roussel, comme
le premier secrétaire du Parti communiste.
Voilà, comme François Ruffin le dit, c'est qu'on, dans ces coins-là, on ne peut pas faire campagne avec Jean-Luc Mélenchon parce que les ouvriers n'adhèrent plus à la ligne insoumise. Et finalement, c'est assez intéressant de voir comment François Ruffin a compris depuis très longtemps ce problème. C'est pas la première fois qu'il fait campagne justement dans ces territoires-là. Et il y a quelques socialistes aussi. Je pense notamment à Philippe Brun, qui est un jeune député socialiste en Normandie, qui a fait pareil, qui a compris que ça marchait pas finalement la ligne Mélenchon. Donc il fallait offrir quelque chose d'autre, de différent, toujours radical, mais de radical de gauche, mais de différent vraiment sur le papier, et qui ne représente pas Jean-Luc Mélenchon ou qui ne représente pas globalement la ligne insoumise. Mais il y a quand même une inquiétude chez François Ruffin sur cette ligne justement vis-à-vis des ouvriers, qui est le cœur électoral perdu de la gauche et qui est aujourd'hui...
Et qui a basculé Rassemblement National.
Et qui a basculé et qui semble tenir dans les bras du Rassemblement National aujourd'hui. Dans le sondage qu'on a commandé, ELAB, qu'on a commandé pour l'Express, François Ruffin, il n'est pas si populaire au sein de cet électorat. Mmh. En tout cas, un peu plus que Jean-Luc Mélenchon, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire que cet électorat, finalement, n'est pas encore convaincu par la ligne et le caractère de François Ruffin, qu'il juge encore trop lié à ce qu'est la France insoumise. François Ruffin, il est populaire chez... les gens des centres-villes, y compris dans sa circonscription, ou les gens justement des catégories plutôt supérieures. Et ça, c'est une vraie inquiétude qu'a remarqué François Ruffin et qu'il n'arrive pas à percer, exactement.
En tout cas, lui, on peut dire qu'il se rêve en antidote de gauche au Rassemblement National.
Oui, oui, il pense qu'effectivement, la gauche a délaissé ses classes populaires depuis très longtemps et qu'il faut, il faut leur parler et que lui, peut-être...
Et sans elle, la gauche ne peut pas gagner.
Et sans elle, la gauche ne peut pas gagner. Et que peut-être, à cause de son positionnement un peu différent, il peut les reconquérir. Mais le chemin à parcourir est effectivement immense. Et en ça, ça ressemble un peu à ce qu'a vécu Fabien Roussel pendant la présidentielle. Hein. Et d'ailleurs, leur langage se ressemble
leur
par certains côtés.
Leur diagnostic est assez proche.
Avec quelqu'un qui avait, semble-t-il, de grandes espérances électorales et puis qui finalement a fait un tout petit score. Et ça doit lui parler à François Ruffin.
Alors comment est-ce qu'il se prépare pour 2027 ?
Alors, je le disais tout à l'heure, c'est surtout de la stratégie. Déjà, c'est de retourner comment on brise le plafond de verre Mélenchon. Le personnage Mélenchon, comment on le contourne, comment on fait sans lui, parce qu'il sera là encore en 2027, même s'il n'est pas candidat in fine, ou en tout cas c'est ce qu'il dit.
Il restera le patron quand même.
Il restera le patron, il donnera son avis, il fera des interviews, donc il sera encombrant. Et donc du coup, François Ruffin s'est rapproché de personnages qui ont très très bien connu Jean-Luc Mélenchon. Je pense notamment à Éric Benzekri, qui est scénariste de Baron Noir, qui était un des collaborateurs de Jean-Luc Mélenchon à l'époque du gouvernement Jospin, qui le connaît très bien, qui sait très bien comment il fonctionne. Donc donc déjà en termes stratégiques, c'est rapproché de gens qui lui, voilà, c'est ce qu'on appelle vulgairement des visiteurs du soir. C'est des nouvelles amitiés qui l'aident, qui lui donnent 2-3 conseils. Alors il prend pas, il picore et il en jette d'autres. Et sur la ligne aussi. Mais il ne sait pas comment aborder ces sujets-là. Il a très, très bien compris que l'immigration était un sujet très important à gauche aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'il soit fantasmé ou non. François Ruffin a bien vu qu'aujourd'hui, je reprends plusieurs sondages récents de ces 6 derniers mois, où on a environ un électeur de gauche sur 2 qui estime qu'il y a trop d'immigrés en France.
Oui, il y avait une étude de la Fondation Jean Jaurès qui montrait qu'il n'y avait plus tant de clivage gauche-droite que ça sur la question de l'immigration.
Exactement. Donc, il voit ça. Alors, lui, il pense que c'est... François Ruffin pense que c'est fantasmé, mais en tout cas, il faut traiter le sujet. Mmh. Et c'est juste la manière de l'aborder. Il en a peur parce qu'il sait très bien que du côté insoumis et du côté des écologistes aussi, les réactions vont être assez virulentes à son égard, parce que il arrive encore aujourd'hui parfois qu'on accuse François Ruffin, sous couvert de off, d'être une espèce de RN de gauche, en fait, parce qu'il aborde ces sujets d'immigration. Donc, il veut aborder ce sujet-là, et il y a l'autre sujet auquel il est très attaché, c'est espèce de réconciliation. Il a beaucoup ce mot à la bouche. Il dit qu'après Emmanuel Macron, après Marine Le Pen et après Jean-Luc Mélenchon, des gens qui ont beaucoup clivé les lignes politiques, il va falloir réconcilier. Alors lui, il veut reparler du travail, il veut reparler des vacances. Et en ce moment, il est en train de préparer un texte justement sur comment on redéfinit ce qui est être en vacances pour un ouvrier. Donc voilà, il cherche de nouvelles accroches pour contourner Jean-Luc Mélenchon et offrir une espèce de nouvel espoir pour les électeurs de gauche.
Ce sont qui ses amis politiques à François Ruffin ? Parce qu'on sait qu'il faut une incarnation pour être candidat à la présidentielle, mais il faut aussi des troupes. C'est qui ses copains à gauche ?
Pour l'instant, il semble avoir des amis en dehors de la France insoumise. Hein. C'est plutôt les choses aimables qu'on entend à son égard, c'est plutôt effectivement au PS ou voire au PC. Enfin, c'est plutôt chez ces gens-là que chez les insoumis. Voilà. Après, jusqu'ici, il n'a pas réussi à fédérer des troupes, et c'est ça sa faiblesse, montrer qu'il peut travailler collectivement. Au fond, c'est un individualiste, et il a toujours été avec un tout petit groupe de personnes. Son caractère aussi un peu fantasque, cyclotimique, comme le disait Olivier tout à l'heure, fait que c'est pas forcément facile de le suivre. Donc ça reste à prouver qui sont ses amis.
Sur son blog, il écrit « Il n'y aura pas de messie, pas de super-héros qui viendra avec ses petits bras musclés et son magnifique cerveau qui viendra relever la France. Il faut une équipe. Voilà le chemin que je nous propose de tracer. » Ça implique qu'il faudrait des ruffinistes. Olivier, est-ce que ça existe, des ruffinistes ?
Des ruffinistes, ça n'existe pas, et c'est ce qu'il essaye aujourd'hui de...
Pas
encore, il reste du temps, mais c'est ce qu'il essaye de cranter. Donc il essaye de créer des amitiés, mais il n'y arrive pas vraiment avec des personnages comme Boris Vallaud ou Jérôme Guedj au Parti Socialiste. socialiste. Ouais. Et chez les communistes, il y a son ami Sébastien Jumel, mais voilà, il sait qu'il y a l'existence très imposante de Fabien Roussel, donc c'est pas facile.
Jumel est aussi un proche de Mélenchon. Enfin, voilà, en tout cas, Mélenchon aime beaucoup Jumel.
Et il y a chez les écologistes.
Jumel, d'ailleurs, avait soutenu Mélenchon pour la présidentielle plutôt que Fabien Roussel.
Tout à fait. Voilà.
Et chez les écologistes aussi. Donc il essaie de cranter, mais sans vraiment avoir de point d'appui dans ces partis politiques-là. Donc pour l'instant, les ruffinistes, les courants ruffinistes, ça n'existe pas. Voilà, il essaie de construire un peu tout ça. C'est un peu compliqué pour lui parce que il vient pas vraiment de ce monde de la politique. Il a pas tous les codes encore. On se rend compte au fil du temps qu'il a pas tous les codes des appareils politiques qu'il aimerait bien un peu conquérir de l'intérieur.
Je suis obligée de vous poser cette question de manière un peu frontale. Est-ce que la guerre Mélenchon-Ruffin pour une candidature en 2027 aura lieu, Marie-Bénédicte ?
Ah bah lui, il veut l'éviter à tout prix parce qu'il est c'est pas quelqu'un qui aime le conflit, François Ruffin. Hein. Il est donc pour l'instant, il est encore dans l'esquive, il est très prudent, etc. Et puis quand il peut, il rend hommage à Mélenchon en disant que c'est lui qui a fait avancer la gauche. Est-ce qu'elle aura lieu à un moment ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va tout faire pour l'éviter probablement.
Olivier.
Il va tout faire pour l'éviter parce qu'il sait qu'il la perdra, je pense. Jean-Luc Mélenchon va tout faire pour qu'elle naisse, pas de son fait, mais en tout cas parce que lui, Jean-Luc Mélenchon, est convaincu qu'il a les épaules et la capacité politique pour vaincre ou du moins pour écarter François Ruffin. La chance de François Ruffin, c'est qu'il y a toute une nouvelle génération, c'est qu'il y a la NUPES en fait. Il y a, chez beaucoup de gens au sein de la NUPES, il y a cette conviction que Jean-Luc Mélenchon, ça c'est fini, ça peut plus...
Ça peut pas être le candidat
ça peut pas être
pour
le candidat.
2027.
Donc ils veulent absolument rester entre eux. Et François Ruffin est pour beaucoup d'entre eux une option assez sérieuse. Et finalement, cette NUPES, elle oblige Jean-Luc Mélenchon et puis elle le contraint avec des gens qui, y compris dans ses troupes insoumises, qui voit bien que pourquoi on n'essaierait pas quelque chose d'autre. Alors ce quelqu'un d'autre, ce sera pour être François Ruffin.
Et si, ou d'autres, c'est ça le problème aussi.
Ou d'autres, c'est ça le problème. Mais en tout cas, chez ces autres, il y a un point commun, c'est de se dire, ça ne peut plus être Jean-Luc Mélenchon. Donc il y aurait peut-être une alliance d'intérêts chez ces gens-là.
Ben écoutez, merci beaucoup à vous deux de nous avoir aidés à davantage cerner ce personnage à suivre dans les prochaines années, François Ruffin. Merci Olivier Perrou, journaliste au service politique de l'Express. Merci aussi à Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Merci d'avoir participé à ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.